Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on débute avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le Victoria qui met en place un cabinet de crise pour gérer la situation du Covid-19. En France, le pire chiffre de décès aujourd'hui, la nuit dernière, avec 588 morts de la maladie. Et en France toujours, c'est une première. Les épreuves du baccalauréat ont été annulées et remplacées par un contrôle continu. Comme à l'habitude, maintenant un journal qui est quasiment dédié à la pandémie mondiale de coronavirus. On débute chez nous, en Australie. Le gouvernement fédéral a apporté des modifications temporaires aux dispositions relatives aux visas pour aider les agriculteurs à accéder aux travailleurs dans ce contexte de crise. Les titulaires donc de visas dans le cadre du programme de vacances-travail, par exemple, du programme des îles Pacifiques ou encore du programme des travailleurs saisonniers peuvent prolonger leur visa de 12 mois pour travailler dans les secteurs de l'agriculture ou de la transformation alimentaire. Ceux qui travaillent et qui n'ont pas été employés dans ce secteur seront également exemptés de la limitation de travail de 6 mois avec un seul employeur. Et ceci pour permettre donc une plus grande flexibilité de la main-d'œuvre. Le ministre de l'Agriculture, David Littleproud, a déclaré que les changements étaient essentiels pour maintenir la sécurité alimentaire du pays.
The fact that you will see an influx of workers from other nations into your country to come and continue the agricultural supply chain is an important one, and we are doing it with protocols that will keep you safe. So I say to everybody, these are practical steps that we work with state and also industry officials to ensure we get the balance right.
Voilà donc David Littleproud, le ministre de l'Agriculture. De son côté, le gouvernement du Victoria a créé un conseil de crise pour gérer la réponse de l'État face à la pandémie de coronavirus. Le Victoria a le deuxième plus grand nombre de cas confirmés de Covid-19, et ce derrière la Nouvelle-Galles du Sud. 7 personnes sont également déjà mortes du virus dans l'État. Donc, le Premier ministre Daniel Andrews, a déclaré que ces 7 ministres de coordination se joindrait à lui au sein du cabinet de crise qui se réunira régulièrement à partir de la semaine prochaine. On l'écoute.
We've all got to adapt and change. We've all got to make sure that we bring the best decision making, the quickest decision making, not just to get through the crisis, but to be able to rebuild on the other side of it. So this crisis council is all about managing the COVID-19 crisis and then making sure Victoria is in the strongest possible position once we get to the other side to repair the damage that's done and to make sure that we come out of this stronger and better into the future.
Voilà donc Dan Andrews, le premier du Victoria. Les responsables de la santé de l'Australie méridionale affirment qu'il est trop tôt pour eux pour parler d'une levée des restrictions en place, malgré les signes encourageants de la courbe qui continue à s'aplanir. L'Australie du Sud, donc South Australia, n'a enregistré que 11 nouveaux cas de Covid-19 hier, portant le total dans l'État à 396. L'administrateur en chef de la santé publique, Nicolas Spruyer, dit que le plus petit nombre de nouveaux cas est encourageant et que la grande majorité de ces cas donc dans l'État sont toujours liés au voyage à l'étranger ou alors interstate à travers le pays. Mais le docteur Spruyer dit qu'elle attend toujours de voir ce qu'il se passera en termes de transmission communautaire au plus large. On l'écoute.
This is a new situation. We've never been in it before. I don't have a crystal ball. We are just going to have to be very, very vigilant, because if we have one case that passes it on to a group of people that pass it on again, we will then see a significant numbers, and we'll be seeing increases.
13h05, direction la France maintenant. 588 décès enregistrés en 24 heures, c'est tout simplement le pire depuis le début de la pandémie. Le bilan total est pour le moment de 6500 morts liés à la maladie. Petit bémol d'espoir peut-être, une hausse qui se ralentit, celle du nombre de personnes en réanimation sur le terrain. Écoutez tout d'abord ce témoignage d'une toute jeune infirmière. Elle vient tout juste d'être diplômée, elle a été affectée à l'hôpital de Rothschild à Paris. Elle nous explique comment son service a été restructuré pour venir en aide aux malades. Elle s'appelle Gaïa Minola.
On se rend compte aussi justement en réorganisant notre service qu'on est capable de créer un service en 2 jours de voilà un jour arriver le matin et s'adapter à toute situation qu'on nous propose parce que tous les jours ça change, de prendre en charge des patients très différents, de pas dépasser nos compétences mais d'en acquérir des nouvelles vraiment chaque jour. Et c'est vrai que surtout moi en tant que jeune infirmière, ça fait peur, mais je me dis que j'en sortirai grandi et avec beaucoup plus de connaissances, et je me dis qu'on sera tous fiers de nous et plus autonomes par la suite aussi, débrouillards quoi, si je puis me permettre.
Voilà donc le témoignage d'une toute jeune infirmière, Gaïa Minola. Une polémique par contre hier, les propos du préfet de police de Paris, Didier Lallemand, propos polémiques sur la chaîne de BFM TV, mettant un lien entre le non-respect du confinement et le nombre de personnes en service de réanimation. Il a depuis présenté ses excuses, mais il y a eu un lever de bouclier de la classe politique dans la foulée. Les explications de Julien Chavannes.
Didier Lallemand participait à un contrôle routier dans la capitale quand le préfet de police a eu les mots de trop sur BFM TV.
Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. Il y a une corrélation très simple.
Aussitôt, plusieurs figures politiques s'indignent, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste.
Ces propos sont absolument scandaleux et ce préfet a décidément dépassé tous les seuils de tolérance possible.
Sa démission est même envisagée dans les rangs de la majorité. Aurélien Taché est député La République En Marche.
Un préfet ne devrait pas dire ça. Si ça devait se poursuivre, on aurait une vraie difficulté, car je ne vois pas comment il pourrait être dans une situation où finalement les Français, ce gouvernement, pourrait avoir confiance sur le fait qu'il est en capacité d'assurer sa mission sereinement.
Après un coup de fil du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, le préfet a finalement changé de ton.
Je regrette d'avoir tenu ces propos et je présente mes excuses à tous ceux que j'ai pu ainsi heurter.
Didier Lallemand avait déjà été accusé de dérive autoritaire pour des propos déplacés lancés à une gilet jaune. Son nouvel écart, en pleine crise du coronavirus, le fragilise encore plus.
13h08, c'était Julien Chavannes. De son côté, le président français Emmanuel Macron était à la cellule de crise du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Il est revenu sur le rapatriement des Français de l'étranger. À ce jour, 132 000 ont pu être ramenés au pays. On écoute Emmanuel Macron.
C'est une grande fierté qui est la nôtre d'avoir des équipes qui ont d'abord ces capacités, ce talent, mais cette force de mobilisation. Et je tiens à vous en remercier. Et je pense que c'est très important pour tous nos compatriotes de savoir et de le sentir. Parce que être française ou français, même à l'autre bout du monde, veut dire quelque chose. Quand on est dans le désarroi ou l'inquiétude, la nation est là qui protège.
Voilà donc le président français Emmanuel Macron depuis le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. A noter que pour l'Australie, les vols de Perth et de Sydney sont déjà partis. Le vol depuis Melbourne part ce soir. Tous les détails dans un reportage tout de suite après ce journal. En France toujours, près de deux tiers des EHPAD, c'est-à-dire les hôpitaux spécialisés dans la gériatrie et l'assistance aux personnes âgées, seraient touchés par l'épidémie de Covid-19. Écoutez ce témoignage de Florence Arnaise-Monet. Elle est secrétaire générale d'un des syndicats des maisons de retraite privées. Elle est enragée contre le manque de dépistage.
Le fait que la politique de la France ait été de faire un minimum de tests, et non pas un maximum de tests, nous pose beaucoup de difficultés. Au-delà du décès, le test est à notre sens beaucoup plus important sur la personne en vie. Les établissements peuvent demain tomber en crise grave parce que trop peu de résidents auront été testés. Eh bien, le manque de tests nous empêche d'avoir une action en soignante mieux calibrée. Aujourd'hui en EHPAD, c'est trois tests et terminé.
Donc les propos de Florence Arnaise-Monet. En France toujours, les épreuves du baccalauréat ont été annulées et remplacées par des épreuves de contrôle continu. Et c'est une première dans l'histoire de l'épreuve. Les explications, Alexis Bétu.
Les notes des trois trimestres dans chaque matière feront office de baccalauréat. Les différentes moyennes des résultats de l'année définiront si les élèves obtiennent ou pas ce précieux Graal. Les notes obtenues pendant le confinement ne seront pas prises en compte. Un jury d'harmonisation étudiera chaque dossier pour en faire un bac le plus équitable possible. On sait que certains établissements notent plus durement que d'autres. Jean-Michel Blanquer l'assure, pas question de faire de l'épreuve de cette année un bac au rabais.
Il y a le fait que nous ayons un jury d'harmonisation. Ça, c'est un point très important parce que ce jury va regarder la motivation, le travail accompli par l'élève. Il y a aussi le fait que nous allons essayer de regagner des semaines de cours jusqu'au 4 juillet. Donc c'est en réalité parfois même des exigences nouvelles que nous mettons. Donc on n'a pas ce baccalauréat comme ça, je dirais, à la va-vite.
Pour les élèves qui obtiennent entre 8 et 10 sur 20, les oraux de rattrapage se tiendront dans les conditions habituelles la première moitié de juillet. Même chose pour l'épreuve orale de français pour les élèves de première. Les cours se tiendront jusqu'au 4 juillet. Jean-Michel Blanquer l'a répété, l'assiduité des élèves sera prise en compte dans la note finale.
13h11, direction le Royaume-Uni maintenant, et nous vous en parlions jeudi d'ailleurs, ici même, le nouvel hôpital qui s'appelle l'hôpital Nightingale à Londres est désormais ouvert. Il devrait initialement fournir jusqu'à 500 lits équipés de ventilateurs et d'oxygène. L'hôpital pourra à terme traiter près de 4000 patients atteints du coronavirus. Le ministre de la Santé, Matt Hancock, est reconnaissant du travail acharné accompli pour rendre l'hôpital opérationnel. On l'écoute.
It shows what's possible when we come together as one team in one national effort. I pay tribute to the extraordinary work of everyone. The NHS, the military, the construction industry, who both donated supplies and, of course, their expertise. The engineers, the electricians, the plumbers, the caterers and others, all playing their part to build a place of hope and a place of healing.
Voilà, direction les États-Unis maintenant. Le total national de cas confirmés de Covid-19 grimpe à plus de 270 000. Le nombre de morts a dépassé désormais les 6 000. Pendant ce temps-là, le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré qu'il ne lui restait que quelques jours pour se préparer au pire de l'épidémie du coronavirus. La ville est à l'origine de plus d'un quart des décès donc aux États-Unis. Le nombre de morts de l'État de New York avoisinerait les 3 000, soit environ le nombre de morts qu'il y avait eu pour les attentats du 11 septembre en 2001, le maire donc de Blasio dit que la ville a désespérément besoin de renforts de nourriture, de renforts médicaux également. On l'écoute.
Making sure we have enough beds is going to be an extraordinary race against time, with only a month to produce a number of hospital beds that's almost inconceivable in the modern history of this city. But we believe we can do it if we get the help we need.
Voilà donc le maire de New York. Le Fonds monétaire international, le FMI, quant à lui, a mis de côté 1 milliard de dollars pour protéger l'économie mondiale contre les effets donc de cette pandémie. L'organisation affirme que les économies vulnérables sont les plus menacées et appelle les pays à prioriser les dépenses de santé comme un moyen de protéger leurs économies. La directrice générale donc de l'IMF, Kristalina Georgieva, a déclaré qu'elle travaillait avec d'autres organisations pour renforcer les défenses économiques international contre les effets du virus. On l'écoute.
We at the IMF are mobilizing strongly, working together with the World Bank and other international financial institutions, bringing the world together to provide protection against this crisis.
Voilà donc pour l'IMF, 13h14, coup d'œil météo à travers le pays. À Perth, il fera 27 degrés, Adélaïde 17, Melbourne 16, Hobart 17, Canberra 18, Sydney 28, Brisbane 31, Cairns 31 et Darwin 33 degrés. Rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le Victoria qui met en place un cabinet de crise pour gérer la situation du Covid-19. En France, le pire chiffre de décès aujourd'hui avec 588 morts de la maladie dans les dernières 24 heures. Et en France toujours, c'est une première, les épreuves du bac ont été annulées et remplacées par le contrôle continu.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.